Je vais donc maintenant vous présenter très brièvement, si je puis dire, notre confrère Jacques de la Rosière. Nous le connaissons tous et nous le connaissons tous depuis 1993, année à laquelle il est entré dans notre académie. Je rappelle, mais nous le savons tous, qu'il a été directeur du Trésor de 1974 à 1978, directeur général du FMI de 1978 à 1987, président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de 1993 à 1998 et président d'Eurofi de 1997 à 2015, 97-98 à 2015. C'est donc un homme que nous avons devant nous, dont je n'hésite pas à dire que, aux yeux des banquiers centraux du monde entier, il est, disons le mot, le plus grand banquier central avec Paul Volcker, qui était d'ailleurs son grand ami et avec lequel il a géré la crise mondiale des risques souverains des années 70 et 80. Sans Jacques de la Rosière et Paul Volcker, le monde ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui. C'est donc vraiment un très grand honneur, je crois, que vous nous faites, Jacques, en ayant accepté de faire une communication sur les réflexions sur les politiques monétaires menées ces dernières années au niveau mondial, sur leurs défauts et sur les améliorations nécessaires. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais porter aux honneurs de la séance Didier Cahen, qui est délégué général d'Eurofi, et Jean-Jacques Bonneau, trésorier d'Eurofi, avec lesquels vous avez travaillé à Eurofi, très grand think tank européen pendant toutes les années que j'ai évoquées, de 1998 à 2015. Jacques de la Rosière, cher confrère, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue les membres du bureau qui sont aussi mes amis, ainsi que toute la population rassemblée de mes amis, de mes collègues à l'Institut. Je remercie notre président, un homme qui s'est attaché tout au cours de sa carrière à être un défenseur résolu de la stabilité de la monnaie, de m'avoir choisi pour vous donner mon sentiment sur la politique monétaire telle qu'elle a été conduite au cours de ces dernières années. Le sujet est technique, mais il intéresse nos sociétés au plus haut point. La littérature a relevé qu'en temps de paix, c'est l'inflation qui est considéré par les populations interrogées comme le plus grand des dangers, avant même le chômage. On peut le comprendre. Je cite Montesquieu. « La monnaie est l'étalon qui permet de donner sa valeur à toute chose. » Fin de citation. Comment imaginer que cet étalon puisse lui-même changer de valeur à tout moment? C'est comme si vous vouliez mesurer un chemin avec le mètre qui est pieusement déposé au pavillon de Sèvres et qu'on vous avait appris que, ah non, c'était plus un mètre, c'était 50 cm le lendemain matin. Traditionnellement, depuis leur apparition à partir de la fin du XVIIe, ce sont les banques centrales qui ont reçu pour mission d'assurer la stabilité de la monnaie. Pendant l'essentiel du XIXe siècle, les grands pays avaient décidé de baser leur monnaie sur une valeur physique, celle d'une marchandise, simple à estimer et dont le marché était assez stable, à savoir l'or. Les porteurs de billets émis par les banques centrales pouvaient à tout moment les convertir en métal. Toutes les monnaies qui jouaient un rôle clé dans le commerce international étaient définies par un poids d'or. Elles s'échangeaient aisément, puisqu'elles étaient définies de la même façon. Pour assurer la stabilité du système, les monnaies ne changeaient pas le poids d'or qui les définissait. Les parités de change étaient donc fixes. pas de dévaluation à but mercantile. Ce système, qui avait assuré une grande stabilité monétaire internationale et avait permis de financer la grande révolution industrielle du XIXe, s'effondra lors de la guerre de 14. Les dépenses militaires étaient devenues si gigantesques qu'il était illusoire de pouvoir continuer à gager en or l'émission de la monnaie. On s'était donc résigné à émettre autant de monnaie que l'exigeait la poursuite des hostilités. C'était la fin de la stabilité et la montée de l'inflation. On essaya bien, après la Grande Guerre, de restaurer le régime de l'étalon or, mais l'on n'y parvint pas. L'habitude de financer des dépenses publiques toujours croissantes par de la dette, ainsi que le désir de gagner des parts de marché à l'exportation en jouant des dévaluations compétitives, explique cet échec. Le monde était entré dans le régime des taux de change flottants. Les États-Unis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, étaient bien décidés à recréer un nouvel ordre mondial. Cet ordre prit la forme, sous l'appellation du système de Bretton Woods, d'un régime de taux de change fixe. Chaque monnaie était définie par rapport au dollar, qui était devenu l'encre du système. Mais le dollar lui-même était soumis à la convertibilité en or. Les banques centrales étrangères, qui estimeraient qu'elles avaient trop de dollars dans leur portefeuille, pouvaient les échanger contre or auprès des autorités américaines. Tant que les États-Unis furent en équilibre de balance des paiements, le système fonctionna à peu près. Les monnaies définies en dollars étaient tenues à une certaine discipline. Elles n'étaient autorisées à dévaluer qu'avec l'accord du Fonds monétaire international, qui pouvait ainsi imposer sa conditionnalité. Mais la guerre du Vietnam, à la fin des années 60, emporta le système de Bretton Woods, comme la guerre de 14 avait emporté les talons or. Les États-Unis avaient décidé de ne pas financer cette guerre très coûteuse en levant des impôts additionnels, mais par l'emprunt. Cependant, du fait de la hausse des dépenses militaires, les États-Unis, dont l'endettement croissait très rapidement, ne possédaient plus assez d'or pour assurer la convertibilité du dollar. Le système monétaire international s'effondra en août 1971 avec la décision du président Nixon de mettre fin à la convertibilité du dollar. S'ensuivit un système de flottement plus ou moins administré, plus ou moins flottant, de taux de change. Ce non-système, comme on peut l'appeler, nous gouverne encore aujourd'hui. Il ne comporte plus aucune discipline. C'est dans ce contexte international qui seul permet de comprendre le sujet d'aujourd'hui que je vais tenter de décrire et de porter une appréciation sur la politique monétaire suivie depuis près de 20 ans. La première considération, qui est l'essentiel du sujet, est la suivante. La politique monétaire de ces dernières années a été marquée par une stimulation continue. Ce faisant, elle a mené à l'affaiblissement du système financier. Depuis la crise financière de 2007-2008, elle-même due à un excès d'endettement, la politique monétaire des grandes banques centrales, qui ont toutes suivi l'exemple de la Fed américaine, a été constamment stimulatrice. La création monétaire avait tourné à plein régime depuis plus de 15 ans, ainsi que le reconnaît un économiste connu, M. Rogoff, pourtant adepte à l'époque de la nouvelle politique. Voici comment on peut caractériser, sur la base de chiffres, la politique monétaire depuis une vingtaine d'années. Premièrement, les taux d'intérêt directeurs réels, c'est-à-dire les taux fixés par la Banque centrale, ajustés de l'inflation, c'est-à-dire les taux d'intérêt réels, une fois qu'on a défalqué l'inflation, ont été négatifs pendant toute la période considérée, à l'exception des deux années de crise. Mais aussi bien la ligne jaune des États-Unis que la ligne bleue de la zone euro sont, année après année, en dessous de l'horizontale du zéro intérêt réel. Concrètement, ça signifie qu'un acheteur européen de bons du Trésor a dû payer une subvention à l'État emprunteur pour être autorisé à lui prêter. Cette anomalie, si je veux utiliser un terme très mesuré, n'a pas concerné que les taux courts. Elle s'est propagée à toute la courbe des taux. Ainsi, en 2020, 40% de la dette publique européenne émise par les gouvernements comportait une rémunération nominale négative. C'est-à-dire qu'on acceptait d'acheter des bons du Trésor qui vous coûtaient de l'argent, en fin de compte. Cette incongruité, je le souligne, unique dans l'histoire, dans la mesure où elle consiste à taxer les épargnants qui sont désireux de financer l'économie, a paru normale et même souhaitable à beaucoup de banquiers centraux. Pourtant, le paradoxe était de taille. Quand il s'agit de financer une économie et son investissement productif, est-il normal de punir l'épargnant, c'est-à-dire celui qui apporte les capitaux ? Deuxième point, la croissance de l'émission monétaire a continuellement dépassé celle de l'économie réelle. Vous le voyez sur le graphique 2, à gauche, c'est la Banque centrale européenne, à droite, c'est la Fed américaine. Et vous voyez que dans les deux cas, la ligne bleue, qui exprime la croissance des agrégats monétaires, dépasse la ligne rouge, qui est celle de la croissance du PIB. Ainsi, entre 2000 et 2019, l'agrégat monétaire M3, qui est le plus compréhensif, a cru de 220% aux États-Unis face à une croissance réelle de l'ordre de 45%. Et les chiffres correspondants sont très similaires en Europe. On peut se référer aussi, non pas à M3, mais à ce qu'on appelle la monnaie banque centrale, c'est-à-dire les billets en circulation et les réserves détenues par les banques commerciales auprès de l'Institut d'émission, et on voit que pour la majorité des pays de l'OCDE, la monnaie banque centrale est passée en gros de 2,5 trillions de dollars en 2005 à 25 trilliards en 2022, c'est-à-dire une hausse record de 900% en 15 ans. Ces données doivent certes être interprétées avec prudence, car la relation entre la création monétaire et l'inflation est complexe et non linéaire. La vélocité de la circulation monétaire ainsi que l'irrégularité du besoin de monnaie éprouvé par les agents économiques sont très difficiles à modéliser. Mais la difficulté à modéliser ne veut pas dire que on se passe de le modéliser. La continuité et l'ampleur de cet excès de monnaie, entre guillemets, auraient dû, pour le moins, me semble-t-il, inciter les banquiers centraux à se poser la question du bien fondé de la politique suivie. Traditionnellement, la croissance du financement était proportionnelle à celle de l'économie. Quand l'économie avançait de 3%, le financement augmentait à peu près de 3%. Il y a eu des exceptions, mais peu. Ce lien a disparu depuis 20 ans. Désormais, le financement dépasse et de loin les besoins à financer. Il faut rappeler que l'économiste français Jean Bodin avait posé en 1568 l'équation quantitative de la monnaie qui fut reprise plus tard par Milton Friedman et les économistes américains. Il avait démontré, Jean Bodin, que si la création de signes monétaires dépassait trop et pendant trop longtemps les besoins de financement de l'économie, l'inflation finirait par apparaître. Cette thèse, sur le long terme, n'a jamais été démentie. Troisième considération. La politique monétaire a été conduite de façon asymétrique. L'examen détaillé montre que la politique monétaire suivie a été continuellement stimulatrice, très allante au moindre signe de ralentissement économique, sans devenir vraiment restrictive en cas de surchauffe. Or, on sait qu'une politique monétaire anti-inflationniste doit tenir compte du cycle économique et alterner des phases d'accommodement et de resserrement en fonction de la conjoncture. La politique monétaire de bateau d'intérêt a contribué à une croissance massive de l'endettement, en particulier dans les pays avancés. Le graphique que je vous montre ici est un graphique stupéfiant. Il montre que la dette globale a littéralement explosé au cours des 17 dernières années. Entre 2006 et 2022, la dette globale, c'est-à-dire la financière et la non-financière, la gouvernementale et la privée, cette dette globale a doublé en valeur, passant de 150 trillions de dollars en 2006 à plus de 300 trillions fin 2022. Ce sont des progressions inconnues dans l'histoire. Alors, je ne vais pas vous asséner les chiffres qui détaillent le graphique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dette des gouvernements a bondi, la dette du secteur privé a explosé. Les taux bas que je vous ai montrés pendant une longue période ont évidemment favorisé cette montée inouïe de l'endettement global. Mais si on veut prévenir l'inflation, il est indispensable de surveiller l'évolution du crédit, surveiller cette courbe-là. C'est en effet la montée excessive de l'endettement qui joue un rôle décisif sur la demande interne et donc sur la pression sur les ressources et sur l'inflation. L'accroissement du crédit dans les années 2013-2019 ne s'est pas accompagné d'une hausse de l'inflation des prix, des biens et des services, mais elle s'est accompagnée d'une inflation phénoménale du prix des actifs financiers et immobiliers, ce qui a créé une grande instabilité dans le secteur financier. Et de fait, la politique monétaire traditionnelle, dite avec un peu de condescendance conventionnelle, s'était toujours préoccupée de la montée du crédit et surveillait de près l'évolution de cet indicateur essentiel. Je me souviens, quand j'ai pris mes fonctions à la Banque de France, j'ai demandé à mon staff qui était là qu'est-ce qui était le plus important à surveiller. Ils m'ont dit le crédit. Or, depuis 15 ans, je ne vois aucune manifestation de la surveillance du crédit. Le voyant d'endettement ne semble même plus figurer sur le tableau de bord de nos banquiers centraux. Et pourtant, l'explosion spectaculaire du crédit, 100% d'augmentation entre 2006 et 2022, il faut le faire, aurait dû, pour le moins, me semble-t-il, susciter une réaction d'inquiétude, peut-être, ou en tout cas d'intérêt. Il n'en fut rien. Alors vous me direz, oui, mais l'investissement productif a dû gagner beaucoup à ces faibles taux d'intérêt et à ce crédit monumental. Alors j'ai le regret de vous dire que ce n'est pas le cas. Malgré la hausse du crédit, qui fut monumentale, l'évolution des investissements productifs, et j'insiste sur le mot productif, a été plus que décevante. En termes globaux, elle a diminué de 2 à 3 points de PIB sur la période de 20 ans considérée dans mon graphique. Ce graphique est terrible pour une économie mondiale qui se veut croissante. L'investissement productif a diminué. Quelle est l'explication de cet apparent paradoxe? Les taux d'intérêt sont très bas, le crédit est très généreux, et pourtant l'investissement productif recule. L'explication tient en partie à la politique monétaire, seulement en partie. Keynes nous avait mis en garde. La trappe à liquidité, comme il l'appelait, n'était pas favorable à l'investissement productif à long terme. En effet, face à l'absence de rémunération de l'épargne, les agents économiques préfèrent, d'une manière rationnelle, rester liquides et ne pas s'engager dans des investissements risqués à long terme qui n'ont aucune perspective de gain. Le graphique suivant est à cet égard très intéressant. Il montre, graphique jamais montré, hein, je vous signale que vous bénéficiez d'un scoop ici, il montre l'évolution de la partie de l'épargne des ménages qui est la plus, je dirais, la plus mobile, la plus liquide, la moins investie dans le long terme. Et vous voyez que tant en France qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, j'aurais pu multiplier les exemples, les courbes sont fortement croissantes. Au détriment de quoi? Au détriment des placements longs et productifs. Il est aussi devenu plus intéressant pour les entreprises de s'endetter à bas coût pour racheter ses actions plutôt que d'investir à long terme dans des projets risqués. D'où l'explosion de ce qu'on appelle en américain les « share buybacks », c'est-à-dire les rachats d'actions par les entreprises. Vous voyez, les courbes sont très fortement ascendantes. Le bilan des banques centrales a atteint des montants jamais observés dans le passé, au moins en temps de paix. Étant donné, comme je l'ai montré il y a un instant, que les taux d'intérêt directeurs ont été maintenus à zéro, voire en territoire négatif, pendant 20 ans, les banques centrales ont eu à faire face à une difficulté arithmétique. Intéressant sujet. Comme les taux d'intérêt nominaux, qui étaient déjà à zéro, comme je vous l'ai montré, ne saurait descendre beaucoup en dessous de zéro, parce qu'il y a en effet une limite qui est dictée par le bon sens à la répression exercée sur l'épargne. On peut lui retirer 1%, 2%, mais pas 10%, parce qu'à ce moment-là, ça deviendrait un problème politique. Alors, les banques centrales ont imaginé une manière de pallier cette rigidité de la limite du zéro. en transférant leur action stimulatrice de la baisse des taux qui était légèrement bloquée, puisqu'on était à zéro, à la croissance de la création monétaire. C'était le moyen imaginé pour recréer ce qu'ils appelaient de la marge de manœuvre à la politique monétaire. La politique monétaire n'avait plus de marge de manœuvre parce qu'on était à zéro. Donc il fallait aller en dessous de zéro, mais sans aller à moins 10. Alors ce qu'on a fait, c'est que, pour assurer soi-disant une bonne transmission de la politique monétaire, on a créé de la monnaie pratiquement sans limite. Pour tourner le butoir du zéro, les banques centrales achetaient sur le marché des titres financiers essentiellement obligataires et en grande partie émis par les gouvernements. Ces achats de titres étaient financés comment ? Par la création monétaire, pardi. En rachetant leurs titres aux acteurs de marché, on accroissait la liquidité. Et l'on pensait que cette liquidité inciterait les banques à financer davantage l'investissement. Alors, je vous ai montré tout à l'heure que ça ne s'est pas produit de cette manière, puisque l'investissement productif n'a pas bénéficié des taux bas. Il a, en réalité, décliné. Certes, vous me direz que l'achat ou la vente de titres a toujours figuré dans l'arsenal des banques centrales. C'est un des moyens les plus classiques d'influencer la liquidité des marchés financiers à court terme et d'éviter des crises. Mais en l'occurrence, il ne s'agissait absolument pas de ça. Il s'agissait d'inonder l'économie avec de la création monétaire sous prétexte que l'objectif d'inflation qui avait été fixé à un peu moins de 2% par an n'avait pas été atteint. Alors, je vais vous montrer, ne serait-ce que pour l'impression visuelle, quelques graphiques qui montrent l'importance des titres achetés par les banques centrales. Ce graphique 7 que vous avez, il s'agit de la Banque Centrale Européenne, vous voyez que la pente monte de manière exponentielle, et c'est vrai aussi de sa collègue, la Fed. Voilà, on part de 1, on arrive à 10. Quoi. En gros, de 2006 à 2022, l'augmentation des actifs achetés par la Banque centrale et détenus dans son bilan a augmenté à peu près de 800%. Bon. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'en Europe, le total des achats qui ont été réalisés par la Banque centrale européenne représente quelque chose comme 70% du PIB de la zone. Ce n'est pas des achats marginaux, c'est des achats qui représente partie essentielle de l'économie. Alors, quels sont les faits ? Une stimulation monétaire débridée, mais surtout continue jusqu'en 2022. C'est celui qui appuie sur l'accélérateur en permanence. Alors, quelles ont été les conséquences de cette curieuse et, à mon avis, très aventureuse politique? La première conséquence que l'on peut expliquer, c'est la croissance exponentielle de l'endettement qui a entraîné une vulnérabilité très grande de notre système financier en augmentant la probabilité des défauts des débiteurs et par là même en favorisant les crises financières lorsque les taux d'intérêt changent de position. La deuxième conséquence, c'est le court-termisme qui a envahi le système financier, puisque les financements d'investissement productif à long terme n'étaient plus rémunérés, les investisseurs étaient poussés par les banquiers centraux à conserver leur liquidité ou à faire des placements courts et spéculatif. Troisièmement, le fait pour les banques centrales d'acheter des quantités abyssales de titres sur les marchés a contribué à une bulle financière sans précédent. Les actions, les obligations, le patrimoine immobilier ont vu leur valeur bondir bien au-delà des chiffres qu'on appelle les fondamentaux qui peuvent expliquer dans une certaine mesure ces montées de prix. Mais les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Et un jour ou l'autre, les marchés se retournent. Et alors, plus on a erré avant la crise, plus la crise est sérieuse. Quatrièmement, nombre d'entreprises ont bénéficié de taux d'intérêt très faibles pendant cette période, grâce auxquels certaines d'entre elles ont pu survivre. Mais lorsqu'avec l'inflation, les taux d'intérêt remontent, ces entreprises qui ont bénéficié de la subvention du taux d'intérêt bas, qu'on appelle des entreprises zombies, sont menacées car la subvention dont elles bénéficiaient disparaît et la valeur des titres qu'elles détiennent dans leur portefeuille s'effondre, puisqu'on les avait achetés à 0% et tout d'un coup le taux ambiant devient 10% ou 7%. Donc on perd énormément d'argent. On estime que les entreprises dont je parle, ces entreprises zombies, dont vous pensez peut-être que c'est une petite aberration statistique amusante, elles représentent à peu près 16% de l'ensemble des entreprises des pays avancés. Un phénomène à 16%, ce n'est pas un phénomène marginal. Un phénomène fondamental. Alors ce phénomène a sans doute contribué à réduire la productivité du secteur productif dans la mesure où il freinait le développement des entreprises qui, elles, plus dynamiques, n'avaient pas besoin de cette subvention. La financiarisation extrême à laquelle nous sommes parvenus depuis des années, on souligne que 75% de la montée du bilan global depuis 20 ans procède des hausses de valorisation spéculative et n'a rien à voir avec l'augmentation de la valeur ajoutée. Cette financiarisation que je dénonce a privilégié 10% de la population les plus à même d'en profiter. Dans un monde où les salaires ont tendance à stagner, on mesure l'aggravation des inégalités sociales qui résultent d'une telle finance à deux vitesses et de ses conséquences politiques. Enfin, la fixation de taux d'intérêt très bas pendant très longtemps n'incite guère les gouvernements à entreprendre les réformes de structure nécessaires. Il est si facile d'emprunter à bas coût. J'ajoute que la politique d'aisance quantitative, ce qu'on appelle le quantitative easing, a amené les banques centrales à détenir une partie très importante, je n'ose pas dire trop importante, de la dette publique. Comme le montre le graphique numéro 10, si vous regardez la dernière barre verticale, vous voyez que les deux parties qui sont des composantes de l'augmentation quantitative de la monnaie, les deux parties représentent 32,9% du total de la dette publique émise par les États en question. Autrement dit, il faut savoir que la Banque centrale européenne détient un tiers de la dette publique. Alors, je vais avancer, Monsieur le Président, dans la conduite de cet exposé qui va être plus rapide. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Alors, je ne nie pas que la politique monétaire a eu certains résultats positifs. Plus incontesté me semble être la réaction des banques centrales face aux crises financières. Leur rapidité d'intervention, leur puissance de feu ont évité par deux fois l'effondrement du système financier. Mais il ne faut pas oublier que les crises, en particulier celle de 2008 et celle de l'euro en 2010, ont été en grande partie provoquées ou favorisées par l'excès d'endettement lui-même, fortement encouragé par l'action des banques centrales. Donc, elles ont réussi à maîtriser les crises, mais elles ont réussi aussi à provoquer les crises. Il reste que le caractère asymétrique de la politique monétaire, le maintien à zéro des taux directeurs réels pendant 20 ans, quelle que soit la conjoncture, le caractère gigantesque de l'aisance quantitative de la création monétaire, le désintérêt manifesté à l'égard de la théorie quantitative de la monnaie, l'endettement inouï, sont des déviations qu'il me paraît difficile à comprendre. Pas justifié, la question n'est plus là, mais comprendre. En tout état de cause, les banques centrales ont cru devoir agir librement de façon non conventionnelle. Mais en fait, on peut agir de manière non conventionnelle et de manière très aventureuse. Et c'est ce que je reproche à l'action qui a été entreprise. Il demeure cependant que les banques centrales en question avaient pris un engagement formel, celui de limiter l'inflation à un peu moins de 2%. Or, cet engagement n'a pas été tenu. L'inflation a ressurgi en 2021, avant la guerre d'Ukraine, à plus de 10%, après des années de modération, et elle se situe encore aujourd'hui autour de 5%. Ce fait doit être expliqué si on veut être capable d'en tirer les conséquences et les leçons. Il ne doit pas être nié, il ne doit pas être traité avec légèreté. Essayons donc de comprendre l'origine ancienne des tendances à l'œuvre. Trois données me paraissent importantes. Il y a d'abord la mémoire de la Grande Dépression de 1929. Qui a marqué les esprits. Une profonde crise économique accompagnée d'une explosion du chômage était aux yeux de Keynes et de ses disciples incompatible avec un resserrement de la politique monétaire. De fait, la politique monétaire suivie en 1929 n'avait fait qu'exacerber la crise. Il fallait donc complètement revoir les données et la compréhension macroéconomique du problème. C'est alors que le New Deal, la stimulation de la demande par des dépenses budgétaires et les grands travaux furent mis en œuvre par l'administration Roosevelt. Les résultats furent spectaculaires. Et le keynésianisme s'imposa, y compris dans le domaine monétaire. La baisse des taux pour encourager l'investissement devint un instrument reconnu dans la gestion macroéconomique. Depuis, la crainte d'une déflation, c'est-à-dire d'une baisse des prix susceptibles de conduire à une dépression économique, tous les agents économiques attendant la nouvelle baisse pour agir, est devenue une hantise. Je pense qu'elle devrait être une préoccupation. Je ne pense pas qu'elle devrait être une hantise. Et c'est devenu une hantise de la pensée économique, bien qu'à aucun moment, depuis 20 ans, nous n'ayons glissé ou même côtoyé la déflation au cours de cette période. Cette croyance en les vertus et en l'inéluctabilité d'une politique de stimulation monétaire a été confortée par un deuxième phénomène qui est la théorie de l'affaiblissement de la croissance séculaire, illustrée par Robert Gordon et dans une certaine mesure par Larry Summers. Selon cette thèse, le monde est engagé à long terme dans un processus de très faible croissance économique pour des motifs structurels. Les raisons fondamentales tiennent au vieillissement de la population et au ralentissement corrélatif des innovations technologiques et des gains de productivité. Comme les sociétés de gens âgés consomment et investissent relativement peu tout en continuant d'épargner, on observe un excès d'épargne, le savings glut, par rapport aux besoins de financement déclinant de l'économie. Deux conséquences s'ensuivent. Les baisses tendancielles de taux d'intérêt naturels qui résultent de ces excès d'épargne et de ce vieillissement permettent de mieux comprendre l'évolution baissière sur le long terme des taux d'intérêt réels. Évolution qui pourrait bien se poursuivre quand l'inflation se sera dissipée. Je vais vous donner ici un graphique qui est très intéressant, et qui est le graphique des taux mondiaux à long terme. Vous voyez que si vous prenez l'une ou l'autre des courbes, elles sont plus ou moins longues en raison des aspects statistiques de la question. Vous voyez que les courbes descendent et qu'on part en gros de 5% en 2000 pour arriver aujourd'hui plutôt proche de zéro. D'où la nécessité, disent les propagateurs de cette théorie, de s'adapter à cette évolution baissière des taux. Mais je voudrais indiquer que les modèles de prévision sur l'évolution à long terme des taux d'intérêt sont extrêmement incertains. Ils dépendent en particulier de la manière dont seront financés les grands investissements écologiques, ainsi que de l'évolution future des dépenses publiques, qui est l'ombre qui se répercute sur tout ce tableau d'inflation que je suis en train de vous brosser. Et le troisième facteur explicatif à long terme est relié à l'absence d'un véritable système monétaire international. Depuis l'effondrement de Bretton Woods, les relations entre monnaies et les interventions de change sont aléatoires et ne répondent pas à une discipline macroéconomique cohérente, imposée et contrôlée par le système lui-même. Il en résulte que les acteurs se préoccupent avant tout de leurs exportations et adaptent leur change en conséquence. Le recours à l'emprunt pour guérir son change d'une tendance trop dévaluationniste est devenu normal. Personne ne vous le reproche. L'endettement qui en découle explique pour beaucoup les dérèglements structurels du système. Et ici, un mot par rapport à Keynes. Oui, Keynes voulait des taux bas pour favoriser l'investissement. Mais il reconnaissait que quand le degré de détérioration des comptes publics avait dépassé un certain niveau, alors on ne pouvait plus se permettre la facilité des taux bas. Alors ça, c'est une remarque un peu conservatrice que je voudrais ajouter au débat. Alors je termine. J'ai peut-être un peu dépassé, monsieur. Bon, je termine rapidement. Vous allez me dire, c'est très beau tout ça, mais comment en sortir ? C'est la question. Alors, d'abord, une remarque générale. La difficulté de sortir d'un piège que l'on a créé inconsciemment, mais souvent très méthodiquement, est souvent le signe de l'inadéquation de la politique qui a été suivie précédemment. Alors, il est évident que les pièges actuels sont de taille. En remontant les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, les banques centrales prennent la bonne décision. Elles reconnaissent enfin la vérité de la théorie de Baudin. Il y a un moment où il faut restreindre un peu la demande quand la demande surchauffe. Mais ce faisant, elles provoquent l'effondrement des actifs obligataires à taux fixe assortis de basses rémunérations que l'on a accumulées pendant la période précédente. Parce que quand les taux d'intérêt sont à 5, 6, 7% nominal et que vous avez acheté, sous l'instigation des banquiers centraux, des papiers à 0%, le papier à 0%, il ne vaut plus grand-chose. Et donc, c'est la crise de l'endettement se complique alors d'une crise de marché. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Des banques californiennes n'ont pas pu supporter le choc que j'explique. Les clients, en voyant s'effondrer les actifs du bilan de la Silicon Valley Bank, se sont mis à retirer leurs dépôts. Et la banque, alors en faillite, a été renflouée par l'État américain qui a garanti tous les dépôts, recréant ainsi l'aléa moral qui avait prospéré à la suite de la crise de 2008 et qui est un des maux de notre temps. On vous assure, et vous ne payez pas de prime, mes amis, mais il ne vous arrivera rien. On est là. Qu'avait-on appris ? C'est une question à laquelle je ne réponds pas. Je vous demande de répondre vous-même. Relever les taux d'intérêt en période d'inflation est sage, mais les gouvernements qui ont bénéficié de la quantité de monnaie vont devoir désormais payer des taux positifs pour le service de leur dette. Problème. L'atterrissage en douceur de l'économie des pays avancés est souhaitable, mais elle n'est pas garantie. Le risque d'un freinage brutal n'est pas complètement écarté. Alors la question se pose, les banques centrales laisseront-elles monter les taux autant qu'il le faudrait pour vaincre l'inflation ou tiendront-elles compte, comme on dit, des effets de la hausse des spreads, des taux sur les États trop endettés? Mais à ce moment-là, elles tombent sous l'influence de ce qu'on appelle la fiscal dominance. En fin de compte, ce que je suis en train de raconter appelle une question simple qui, autour de laquelle je tourne, qui est « Mais que faire ?» Vous dites que c'est compliqué, vous dites qu'il y a des pièges, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je vais tâcher de résister à la tentation de ne pas répondre à cette question. Premièrement, il est vital de vaincre l'inflation. Parce que l'inflation, c'est en économie ce qui est le pire. C'est une taxe qu'on n'ose pas amener au Parlement pour la faire voter et qui frappe presque exclusivement les plus pauvres. Il faut le faire. Dès le printemps 21, avant l'invasion de l'Ukraine, qui, je le rappelle, date de février 2022, dès le printemps 21, l'inflation avait surgi comme le montre le graphique que vous avez ici. C'est la partie ascensionnelle de cet Himalaya qui est représenté en différentes couleurs, représentant les différents États. Après, ça a baissé, mais ça a commencé à monter très vite. Les banques centrales, quand elles ont vu l'inflation arriver en printemps 2021, ont commencé par faire quelque chose que j'ai souvent constaté dans la vie. Elles ont nié le phénomène. C'est si facile. Parce qu'on nous disait, non, ne vous préoccupez pas de cette poussée d'inflation. Elle est exclusivement due à des facteurs extérieurs qui n'ont rien à voir avec les gouvernements et encore moins avec les banquiers centraux, bien entendu. Et c'est les hausses de prix, de l'énergie, des matières premières agricoles, la défaillance des chaînes de production, la guerre d'Ukraine, tout ça, ça explique le phénomène. Et l'inflation, pour toutes ces raisons, ne peut être que transitoire, puisque les phénomènes en question, qui sont extérieurs aux banques centrales, sont transitoires. L'inflation devrait donc disparaître, on nous disait, fin 22. Il n'était donc pas nécessaire, selon les banquiers centraux, à cette époque-là, de resserrer la politique monétaire. On disait que ça n'a aucun intérêt. On va resserrer un peu la demande interne, alors que le problème, c'est l'offre, c'est le pétrole. Et cette politique monétaire demeura inchangée. Les achats de titres par la BCE continuèrent, malgré la montée rapide de l'inflation. Il y a un petit phénomène statistique amusant, là. C'est qu'au printemps de l'année 2021, quand l'inflation a commencé, elle a commencé très vite, pas lentement, très très vite. Et si vous preniez les chiffres mensuels d'inflation, vous voyez des taux d'accroissement énormes. Mais on disait, c'est pas grave, parce qu'on raisonne, nous, en termes d'un an. Alors évidemment, vous avez une bonne pondération passée qui fait que votre petite grimpette actuelle est peu influente sur le résultat. Mais c'est pas ça, la conduite de la politique monétaire. conduite de la politique monétaire, c'est de regarder les statistiques. Alors, là, j'ai un problème avec notre président. Notre président a réussi à acclimater, à faire passer dans le monde la notion qu'un objectif d'inflation légèrement inférieur à 2% a une valeur de réparation du système monétaire international qui en a bien besoin. Parce que c'est universel. Aussi bien les Japonais, les Asiatiques, les Européens, les Américains croient dans l'objectif de 2%. Alors, c'est vrai, je ne dis pas que c'est une universalité qui est positive. Mais j'en tire moins de satisfaction ou d'impression positive que notre président. Parce que on nous dit que ces anticipations d'inflation sont ancrées sur le long terme. Ce qui veut dire, oui, on peut avoir une inflation momentanée, conjoncturelle, mais fondamentalement, les gens croient que ça va revenir à 2%. Je suis personnellement moins sûr de cela. Je pense que on a tort de regarder aujourd'hui l'inflation avec les lunettes du 2%, qu'il vaudrait mieux les regarder avec les lunettes de la statistique présente, qui sont très inquiétants, et qu'il y a dans le bien-être associé au 2% un élément circulaire. C'est-à-dire qu'on l'a tellement dit qu'on a fini par le croire. Mais la vérité, c'est qu'on ne tue pas l'inflation en se réjouissant de l'ancrage à long terme. On ne tue l'inflation qu'avec les mesures qui permettent de tuer l'inflation. Voilà, c'est le point sur lequel je diverge un peu. Et alors, je vais vous donner un tableau que je regarde tous les jours, parce qu'il me paraît être celui qui devrait nous guider. À gauche, vous avez les taux directeurs en 2021. C'est facile, ils étaient à zéro. C'est la période d'argent facile. En juillet 23, après les rehaussements de taux, 9 rehaussements dans telle région, 8 dans une autre, etc., après ces rehaussements, ils sont à 5,5% à la Fed et ils sont à 4,25% depuis avant-hier chez nous en Europe. Regardons l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente, je l'ai choisie parce que c'est celle où il n'y a pas le pétrole, où il n'y a pas les matières premières qui montent. C'est celle qui est gentille, c'est la structurelle. C'est celle à laquelle il faut vraiment s'attaquer. Parce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas nous. C'est nous, l'inflation sous-jacente. Et l'inflation sous-jacente, elle est à 4,7% à la Fed, 5,5% en Europe, et si vous comparez 5,5% en Europe à 4,25%, au chiffre héroïque, résultat des 9 augmentations passées, vous avez encore un taux réel pour les consommateurs de crédit de moins 1,3%. Il est positif aux États-Unis de 0,85%, mais en Europe, il est encore négatif. Et moi, j'ai tendance à dire, parce que je n'accorde pas la même importance aux 2%, que notre président, mais j'ai tendance à dire que quand règne un système où les emprunteurs, ceux qui ont envie d'emprunter, on leur dit « je te donne de l'argent à moins 1,3%, c'est difficile de soutenir que c'est une politique anti-inflationniste très rigoureuse. C'est mon sentiment. Mais j'étais à l'école de Volcker, comme M. Trichet l'a rappelé. Alors, les bilans des banques centrales ont commencé à se dégonfler, mais regardez la Fed, la réduction du bilan a commencé, mais la moitié de cette réduction a déjà été compensée par le renflouement des banques américaines qui ne s'étaient pas prémunies contre le risque de hausse des taux d'intérêt. Quant à la BCE, c'est très timidement qu'elle engage ce qu'on appelle le QT, le quantitative tightening, le retrait. Jusqu'où faut-il aller? À quel rythme? Dans la voie des dégonflements? Ce n'est certainement pas le lieu d'en discuter en détail et je ne le ferai pas. Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance du problème. L'héritage de la stimulation monétaire continue d'être présent et est reflété par le stock des actifs détenus par les banques centrales. Ces montants sont encore gigantesques et contribuent à la liquidité des marchés. Alors, je vais vous donner maintenant, il y a 3 minutes pour finir, ma conclusion. D'abord, la politique monétaire ne devrait pas être, comme ça a été trop le cas depuis 15 ans, le seul jeu en ville. On a trop tendance à se tourner vers la politique monétaire pour traiter des problèmes qui sont plus des problèmes de dérive budgétaire. Et ces problèmes ne peuvent être réglés que par des actions structurelles gouvernementales. Et il s'agit d'augmenter l'offre productive et pas la demande. La deuxième idée, c'est que la politique monétaire, dans sa quête de stimulation permanente, a trop souvent cherché à être populaire. Parce qu'on croit qu'on est populaire quand on crée de la monnaie et quand on tient les taux d'intérêt très bas. Parce qu'on regarde les débiteurs et on ne regarde pas les créanciers. En multipliant les objectifs verts, sociaux, monnaie crypto, alors que le rôle de la Banque centrale devrait être de se concentrer sur un objectif essentiel à mes yeux, celui de la stabilité de la monnaie. La manière dont on a utilisé l'objectif d'inflation à 2% a été, à mes yeux, discutable. Combien de fois ai-je entendu des responsables de la politique Banque centrale justifier la stimulation monétaire dans les quelques moments où une politique plus mesurée aurait été absolument évidemment de mise, me répondre « Ah oui, mais nous n'avons pas encore atteint le 2%. Il faut atteindre le 2% avant de commencer à restreindre la politique monétaire. » Mais s'époumoner à faire de la création de monnaie pour atteindre un chiffre arbitraire de 2% n'a pas de sens. Des facteurs structurels maintenaient à l'époque l'inflation d'équilibre autour de 1%, ce qui me gênait nullement, et il n'y avait aucune raison d'intensifier la création monétaire pour faire monter l'inflation au chiffre sacro-saint de 2%. Au total, la politique monétaire ne doit pas être guidée par une vision doctrinaire. On a voulu forcer les taux d'intérêt à se fixer à zéro, alors qu'il était essentiel de laisser le marché des capitaux trouver les taux d'équilibre. C'est très grave de dire, en prenant l'autorité de la Banque centrale, qu'on va fixer les taux d'intérêt à zéro indéfiniment. C'est un acte qui dépasse énormément la création monétaire, la politique monétaire. C'est un acte de décision sur la répartition des biens et des ressources dans une société. Alors, le risque de dominance fiscale, il est là. Quand vous avez vous détenez le tiers de la dette publique et que vous êtes une banque centrale, vous n'avez plus tout à fait la même égalité d'humeur quand vous parlez de ça avec des gens proches du gouvernement. Une dose d'humilité apparaît de mise. À force de s'occuper de tout, on finit par croire que c'est raisonnable. Mais une institution qui se respecte et qui respecte son public doit accepter de ne pas tout savoir et de ne pas tout faire systématiquement. Être prudent face à la tentation de l'imagination non conventionnelle. Ne pas confondre bonne gouvernance. Moi, j'ai jamais vu fleurir autant de rapports savants, mais complètement inopérants, sur la stabilité monétaire et la guidance de politique de taux, et la bonne politique. La bonne politique, c'est ce qui compte, et c'est ce qui a failli. La bonne gouvernance, c'est ce qui compte pas tant et qui n'a pas failli. Bref, il s'agit de remettre debout une politique monétaire qui soit fondée sur des faits, sur l'expérience, définie avec un degré d'indépendance souhaitable, mais qui ne devrait jamais être un prétexte pour persévérer dans l'erreur. Il est temps, dans un monde gouverné aujourd'hui par le cycle financier, que les banques centrales s'occupent de la stabilité des systèmes financiers, évitent de créer des bulles spéculatives, modèrent l'endettement, arrêtent de se concentrer exclusivement et coûte que coûte sur un objectif d'inflation au détriment de quelque chose de plus complexe qui est la stabilité financière. Un mot, et je termine, sur l'aspect politique de tout ça. Avec l'apparition de l'inflation et des dangers sociaux qu'elle comporte, Hayek avait dit dans une conférence en 1975 « Il faut trouver un moyen de protéger la monnaie de la politique ». En son temps, l'étalon or y avait réussi. On avait dépolitisé la monnaie en introduisant une discipline internationale, la convertibilité en or, qui échappait en principe aux politiciens. L'étalon or avait conduit à des ajustements et à des sacrifices sociaux qui, sans lui, auraient été dictés par des choix ou des non-choix politiques. Mais Hayek ne fut pas écouté. Après l'échec du traitement de l'inflation des années 70, on en est arrivé à prôner l'indépendance statutaire des banques centrales comme un moyen, à la Hayek, d'immuniser la stabilité monétaire des tentations politiciennes. Mais plusieurs éléments expliquent que les résultats de l'indépendance des banques centrales aient été décevants. En premier lieu, la financiarisation du système qui a abouti à ce que le marché devienne roi et l'extraordinaire liberté d'emprunter depuis 40 ans ont atténué la discipline monétaire internationale qui aurait dû être recherchée. Cette évolution, la multiplication des faux droits, selon Jacques Rueff, cette évolution s'est traduite par une fragilisation du système et l'apparition de bulles financières énormes, elles-mêmes annonciatrices d'inflation. Et enfin, la façon dont l'objectif d'inflation a été appliqué, qui consiste à relever le niveau de l'inflation par la création monétaire lorsque le chiffre arbitraire n'a pas été atteint, alors que les bulles et les dangers inflationnistes frappaient lourdement à la porte, a été une erreur manifeste. En réalité, le concept d'indépendance des banques centrales a été vidé en grande partie de sa substance. Le mot d'ordre était « créer toujours plus de monnaie par achat de titres de dette publique », sans prêter attention à la dépendance budgétaire et financière croissante qui en résultait et qui a fini par dévorer la notion même de stabilité financière. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup, cher Jacques, pour cet exposé, je dirais, magnifique. Vous avez fait traverser 40 années d'économie européenne, américaine et mondiale avec un talent que nous vous connaissons tous naturellement, mais réellement éblouissant.